Et salut à tous, bienvenue dans ce show live, Mix Réflexion numéro 222. 222, c'est un chiffre, après, c'est pas tout rond, mais bon, voilà, c'était un chiffre sympa qui nous rappelle Antonio Kérolien. Devait faire un goûter chez Blaise, mais bon, il n'a pas été faire les courses ce week-end de Pâques et il n'est pas prêt à nous accueillir. C'est bien dommage, mais c'est pas grave, on va quand même se régaler parce qu'on a deux invités de marque. On va parler d'actualité après un gros, gros week-end de motocross avec deux épreuves ce week-end. Championnat de France élite à Castelnau, le lendemain, lundi de Pâques, il y avait le motocross inter. Je pense que c'est motocross inter, mais on va en parler un petit peu plus avec notre invité, notre premier invité. C'était à Thomers-la-Sorgue. Donc voilà, gros, gros week-end de moto. On va retrouver des pilotes peut-être qui ont encore quelques séquelles de ce week-end. En tout cas, nous, on est en pleine forme, ça bosse. On a fait une vidéo justement motocross récemment sur le circuit de Mirepoix-sur-Tarn, un des gros circuits en Occitanie qui est en pleine refonte pour l'homologation. Il l'avait refait déjà il y a 4 ans. Là, l'homologation est arrivée à terme et ils ont décidé de refaire la piste complètement. Changement de tracé, changement d'obstacle. On va dire piste refaite, allez, à 50%, mais ouais, vraiment de gros, gros efforts faits par le motoclub. Et on a immortalisé ça en vidéo avec des caméras timelapse aussi. Donc, on va avoir du mouvement de terre. Ça va être plutôt sympa. Une fois qu'on aura attaqué le montage, je pense d'ici une dizaine de jours, on devrait pouvoir sortir ça. De l'autre côté, ça parle motocross aussi, habillé en noir, c'est Blaise Abadie. Comment ça va, Blaise? Alors, ça parle motocross, mais ça roule pas trop motocross hein, pour
Non, en ce
l'instant.
moment, ça roule pas. On n'a pas de moto. La moto va arriver, on espère. On l'a dit la semaine dernière. J'attends la Stark qui devrait arriver certainement cette semaine ou la semaine prochaine. Et donc, pour 3 mois, on fera un essai complet de cette Stark où on roulera, on la mettra dans toutes les conditions. Le sable, la boue, l'enduro cross, même les petits super cross faciles pour mon vieil âge. Et on essaiera la Stark, on essaiera de la mettre dans tous les sens pour voir ce que ça donne vraiment. Et quelqu'un qui s'est bien chiffonné ce week-end sur deux courses, deux épreuves à la suite, qui n'était pas à côté niveau géographie en plus, c'est notre invité Greg. Comment ça va Greg? La forme?
Ça va, nickel, un peu fatigué là.
C'est ce que j'allais
Mais
te dire,
ouais,
naturel, non?
après ça vaut le coup de faire la route pour aller à Thomers, parce que c'est vraiment une belle course, il y a vraiment du monde et la piste est toujours sympa. Donc non, c'était un bon week-end. Ouais.
Deux courses à la suite, deux beaux résultats, des bons résultats pour toi, pour le team. Comment t'as vécu toi ce week-end sur deux pistes, on en parlait un petit peu en off, qui sont quand même assez différentes. Une piste à Castelnau-de-Lévis qu'on connaît bien, sur on va dire un tracé du sud un peu béton. Une autre à Thomers qui avait l'air, alors j'ai vu quelques images qui avaient l'air un peu plus grasse. Voilà, comment t'as pu gérer sur ces deux épreuves avec des textures bien différentes?
Ben déjà Castelnau, ça s'est bien passé. J'avais vraiment une bonne vitesse, donc j'étais vraiment parti pour jouer la gagne l'après-midi. Mais voilà, la première manche, je m'accrochais avec Orgmo, on avait les motos bloquées, et du coup je repars pratiquement dernier, donc je reviens 5. Et voilà, après deuxième manche, j'ai vraiment tout donné pour aller chercher la victoire, parce que c'était vraiment un terrain que j'appréciais. C'est des conditions où je m'entraîne tout le temps. Donc voilà, je m'étais dit, si je ne gagne pas là, je gagnerai pas de l'année. Et puis voilà. Et ensuite, Thomers, super piste. On a eu du cul avec la météo. Il y a eu du public. Il y avait vraiment un gros plateau de pilotes inter. Il y a beaucoup de monde qui sont montés aussi de l'élite. Donc voilà, bon chrono le matin. Je gagne aussi la super pole et je fais deux au général derrière Max encore, qui a mis du gros gaz.
Oh, on voit la situation au championnat là, championnat de France élite. Après deux épreuves, on voit que t'es trois. Maxime est devant. Donc c'est vrai que pour le team, ça marche bien en ce moment. Vous êtes entraîné dur cet hiver pour vous hisser à ce niveau. Vous êtes entraîné ensemble. Il y a une émulation ou pas du tout?
Ouais, on s'entraîne quand même pas mal ensemble. Le team fait vraiment l'effort de déplacer la structure pour qu'on soit les mécanos, les pilotes, tous ensemble. Après aussi dans le sud, je m'entraîne beaucoup avec Lucas Hembert, le troisième pilote du team, et aussi Fab Isoard qui est toujours là avec nous. Donc c'est un plus aussi, vu qu'il est tout le temps là à l'entraînement avec nous. On a Didier Rochette là qui vient aussi sur les entraînements, là, les semaines où on s'entraîne avec le team. Donc vraiment. Vraiment, le team fait l'effort de déplacer tout le monde sur les entraînements pour qu'on ait tout ce qu'il faut. Et voilà, franchement, quand on s'entraîne tous ensemble et qu'on fait des belles journées d'entraînement, tu sens vraiment que le soir, ça a apporté quelque chose, quoi.
Tu as parlé de la Super Pole hein, de Thomas Lassogne. On sait que c'est ta spécialité, on le mentionne à chaque fois. Tu as fait un truc énorme au Supercross de Paris hein, en fin d'année dernière. C'est quelque chose que tu travailles encore à l'entraînement, les chronos comme ça, ou c'est quelque chose qui est pas inné parce que tu l'as beaucoup, beaucoup travaillé quand tu étais plus jeune. Est-ce que c'est les restes d'avant ou c'est quelque chose que tu continues à pousser à l'entraînement?
En fait, je pense que c'est parti à l'époque de ma première année de GP, en 2006, où il y avait encore les qualifs. Donc, il y avait deux groupes, deux manches qualifs, ils prenaient 12 et 12. Et après, il y avait les six derniers pilotes qualifiés qui faisaient une séance chrono. Mais sauf qu'à chaque fois, bon, moi, je n'arrivais pas à passer en manche qualif. Et du coup, je me retrouvais à jouer la vie à la séance chrono pour me qualifier pour le dimanche. Mais tu avais toujours des mecs qui avaient raté, genre des Keroni, Guarneri et tout à l'époque. Qui rataient leur manche qualif aussi. Donc les six places qualificatives étaient chères. Donc, il fallait vraiment jouer la vie. Donc, à l'entraînement, je travaillais à bloc les chronos. Et je pense que après, c'est resté. Et ouais, après, on continue toujours à les travailler. Mais ouais, le but, c'est d'être constant sur une manche. Parce que ben, comme on le sait, le plus important, c'est les manches, quoi. T'as beau faire la pole. Comme j'ai fait à Castelnau, si l'après-midi t'es pas dedans, ben, tu gagnes pas. Donc voilà.
Et toi, justement, le fait que tu cartonnes à chaque fois au chrono et que des fois, ben, manche, c'est un peu plus faible. On a toujours dit, enfin, j'ai toujours entendu de toi que tu pourrais être un pilote exceptionnel, en gros, un pilote qui a la vitesse pour jouer la gagne à MXGP. Et d'où tu penses que cette vitesse en super pole, mais tu n'arrives pas à la voir de manière constante en manche. Comment, c'est à cause de quoi? C'est du physique, de la technique, le fait d'être concentré sur une manche complète, ça serait quoi la clé pour que tu gardes cette vitesse-là?
Ben déjà, je suis pas un bon starter. C'est rare les fois où je pars devant et où j'arrive à être tout de suite devant. Donc à chaque fois, je pars dans le paquet. Je suis obligé de forcer pour remonter et je prends énormément de risques. Là, les 2 jours, à part en deuxième manche à Castelnau, mais les 3 manches, par exemple, là, à Tomer, je pars. On était une vingtaine de pilotes. J'arrive à partir 15, quoi. C'est un truc de fou. Ouais, c'est vraiment les départs, c'est compliqué pour moi. Et après, ouais, il m'a toujours manqué un peu de physique dans ma jeunesse. Mais là, vraiment, depuis 2, 3 ans, c'est pas ce qui me manque. Donc ouais, il faut que j'arrive à régler ce problème de départ pour jouer devant. Même à Paris, le problème, c'est que voilà, il y a tellement un gros plateau, ça se joue tellement à rien que maintenant, je veux dire. Quand tu remontes avant, voilà, tu avais toujours des mecs qui n'avaient pas trop de physique, mais maintenant c'est fini, ça, tout le monde a le physique, donc tout le monde va au bout des manches, à part si tu es vraiment au-dessus de tout le monde, remonter c'est dur, quoi.
Et justement, comment tu te sens en ce moment physiquement? Parce que comme tu l'as dit, ça fait 2 ans que apparemment tu étais bien. Moi, d'un point de vue extérieur, en tout cas, ça c'est juste mon ressenti à te voir sur la moto, à te voir rouler. J'ai l'impression que tu n'as jamais été aussi affûté que maintenant, que les 2 dernières années. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste le fait de te sentir bien dans un team, bien sur la moto? Et voilà, est-ce que tu as changé quelque chose à ton entraînement physique ou pas?
Bah après, ouais, comme je disais, c'est un peu un tout, quoi. La structure, elle fait l'effort, ça donne envie de bosser. Tout le monde est à fond. Et ouais, depuis 2 ans, là, vraiment, je bosse. Après, j'ai eu des années où j'ai vraiment bossé aussi, à l'époque chez Bud avec Jackie, par exemple. J'en oublie aussi, mais j'ai eu des années où j'ai bossé, mais je me suis. En fait, les moments où je me suis mis à bosser, je me suis souvent blessé juste après. Et franchement, pour revenir, c'est compliqué. Mais là, ouais, ça fait 2 ans où je suis sérieux et en fait, où ça marche, où tu as des résultats le week-end. Donc, tu continues à bosser, tu mets encore les objectifs un peu plus haut. L'année dernière, par exemple, j'avais repris à rouler à l'élite. On ne savait pas trop. L'hiver, on s'est dit, bon, on part pour essayer de faire un peu des podiums. Et je me suis retrouvé en tête de l'élite. Jusqu'à 2, 3 courses de la fin. Ouais, ça donne des objectifs et voilà, on s'y tient, tout le monde bosse pour ça, donc c'est top.
J'ai écouté une interview de MX Actu, qui fait un super boulot d'ailleurs sur l'élite avec des interviews, des réels, les résultats quasiment en direct. Donc quand on se déplace pas, c'est vraiment cool de suivre là-dessus. Il a fait une interview de Maxime Després en lui disant, bon, ben, tu te bats et tu bats même des gars qui font le mondial, comme Valentin Guillot par exemple. Est-ce que ça te titille pas un petit peu de faire du MXGP? Et j'ai bien aimé sa réponse. Enfin, j'ai trouvé ça très intéressant en fait de dire, ouais, forcément, on y pense. Le team aussi y pense, mais le truc qu'il y a, c'est que bah, si on y va pour rouler gratuit, on prend des risques et le jeu en vaut pas la chandelle. C'est si je te pose la même question à toi, c'est quoi ton ressenti? Parce que je te place
Ben,
un petit
moi,
peu dans la
après,
même catégorie que ton teammate. Hein.
ben, ouais, c'est la même chose. En fait, je dis à quoi ça sert? Parce que, par exemple, Max et moi, demain, on va au GP de France. Le team, ça leur coûte je ne sais pas combien parce qu'il faut déplacer toute la structure. Il faut payer les deux engagements des pilotes. Donc c'est encore un billet. Et même si, je sais pas, je dis une connerie, on roule vraiment super bien, on arrive à rouler un peu comme Guillaume et Orgmo par exemple, et qu'on fait du top 8, top 8, top 10, ben à la fin du week-end, en fait, ça a servi à quoi? À part dire, ouais, et putain, ils ont la vitesse pour rouler 10 en GP, mais c'est pas pour ça
Enfin, il n'y aurait même pas
qu'il
de retombée après coup, tu penses?
y
Tu
a
penses
rien,
que
il y
ni
a
pour le
rien.
team, ni pour vous, il n'y aura pas un
Il n'y a
truc
rien du
qui va
tout,
tomber?
à part les gens qui diront, ah ouais, putain, ils ont la vitesse pour rouler dans les 10 en GP, mais après, il y a zéro retombée, quoi. Zéro
C'est ça le
retombée.
problème de. Et justement, on a aussi une question de Hello qui demande ça aussi, qui demande ce que tu penses du nombre de pilotes MX1. Alors, je fais l'amalgame entre le MXGP, le MX1, parce que je pense personnellement que le problème vient du même endroit, c'est-à-dire du manque de moyens, du manque de partenaires qu'il y avait il y a plutôt 20-25 ans, et qu'il y a de moins en moins maintenant, où il y en a eu. À une époque, je ne sais pas si les plus jeunes s'en rappellent, mais les marques de cigarettes qui sponsorisaient, cigarettes alcool, ça a été interdit. On a eu les boissons énergisantes qui ont pris le relais, qui s'en vont de plus en plus. Et il n'y a pas de relais. Je pensais, moi, à un moment donné, qu'il allait y avoir les crypto-monnaies, ce genre de choses, qui allaient commencer à sponsoriser. On en a parlé avec Mathis Boiramé la semaine dernière. Il y a quelques petits trucs comme OnlyFans qui commencent à sponsoriser un peu, des sites comme ça. Mais il n'y a pas de gros partenaire qui vient et qui met le paquet et qui dit, bon, j'ai envie d'avoir énormément de visibilité. Allez, je sponsorise tous les teams du championnat, élite, mondial. N'a pas de relais comme ça. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça, d'une solution, d'un problème ou des problèmes qu'il y a actuellement?
Après, solution, j'ai pas. C'est pour parler du MXGP. Ben, déjà, comme je disais, pour engager des pilotes, il faut payer un bon paquet. Les structures, enfin, les structures, les sponsors, c'est compliqué. Donc, tu as vraiment ce truc où c'est un peu toujours les mêmes pilotes qui signent dans les team usines. Et tu vois, des mecs comme Paturel, des mecs comme Guillot et tout, pourquoi il n'y a pas un team usine en fait qui d'un coup va leur donner leur chance d'avoir une moto usine ou, enfin, je sais pas trop. Et pareil pour l'élite, quoi. L'élite, il n'y a pas énormément d'engagés. Et voilà, la Fédé se pose beaucoup de questions, mais déjà, ils ont enlevé les primes de qualif. Demain, le mec, il a sa moto, il se dit, tiens, je vais aller faire un élite. En début d'année, il y a tout qui est dans le nord, donc souvent il pleut. Tu vois les conditions encore à Bali, on a eu un peu de chance, mais si tu roules dans la boue, le mec à la fin de la journée, sa moto elle est morte. Ça lui a coûté le déplacement, la moto elle est morte, il faut tout changer dessus et il a pris zéro quoi. Et ça lui a coûté 120 balles d'engagement. Donc en fait l'histoire elle est facile à comprendre.
J'ai l'impression que la Fédé a fait énormément d'efforts ces dernières années pour sauver les clubs, pour racheter des terrains. C'est un très beau travail qui a été fait sur ces dernières années. Moi, à mon avis, maintenant, il va falloir sauver les pilotes pro et essayer de mettre en avant ce qui a été fait sur les clubs, mettre le même travail sur les pilotes, sur les primes, faire en sorte qu'il y ait plus de monde qui vienne pour financer ça, voilà, mettre en place un plan d'action. Mais axé aussi sur les pilotes, parce que c'est vrai que ça commence à devenir difficile, notamment au haut niveau. On va dire qu'au niveau un peu plus faible, niveau amateur, il y a voilà, ça, le nombre de la fréquentation des entraînements reste stable, reste haute. Les courses baissent un peu en termes de fréquentation. Ça dépend des régions, c'est toujours pareil. Mais voilà, ça se fait moins ressentir qu'au haut niveau, où c'est vrai qu'en MX1, c'est compliqué. MX2, ça va encore en termes de nombre de pilotes, mais MX1, ça, c'est compliqué. Et justement, tu l'expliques comment, qui est à chaque fois, dans chaque catégorie, moins de monde dans MX1 qu'en MX2.
Ben, ça, je ne sais pas trop, mais après, comme on dit, on en discutait d'ailleurs tout à l'heure avec Xavier Bogue, là. En fait, il faut rééquilibrer le truc parce qu'en fait, tu as on va dire, tu as les deux GSM, les deux SR, quelques pilotes goupillons, tout ça et tout. Ces mecs-là, on est quand même payé par les teams pour rouler, mais en fait, c'est derrière qui fait rééquilibrer. Tu vois, il ne faut peut-être pas remettre des primes, rajouter des primes au premier, mais par contre, mettre des primes de qualif. En mettre plus on va dire de la 7-8e place ou même 5e place à la 30e place, que ça donne envie au mec de venir, quoi. Le mec, il vient, il vient faire sa course, il repart avec 500 euros. Tu vois, s'il est rentré deux fois dans les points, il repart avec 500 euros, il va venir, ils vont tous venir, quoi. Donc je pense que le gros problème, il est là, quoi.
À Tomer, ça s'est passé comment? Les grilles étaient pleines, par exemple, si on peut comparer, puisque c'était le même week-end. Alors, pas la même région, certes, mais voilà. Une course comme Tomer, si tu la compares à une course comme Castelnau, alors on peut la comparer sur plein de points, mais
Déjà sur les
toi, à ton
primes,
niveau, est-ce
on va comparer
que
sur les
sur les
primes
primes,
déjà.
ouais, voilà, toi déjà, est-ce que c'est plus rentable une journée à Tomer ou une journée à Castelnau à l'élite?
En fait, on va dire que ouais, une journée à Tomer, ça vaut deux fois et demi l'élite, quoi.
Ça
Une
vaut deux
fois l'élite.
fois?
Ça vaut deux fois
Ah ouais,
l'élite.
tu récupères, toi tu récupères deux fois le montant.
Ouais, tu fais.
Ok.
Je veux dire, c'est beaucoup mieux d'aller à une course comme Tomer ou même Sommières. Les clubs, ils jouent le jeu, ils mettent des primes. Et plus il y a du public et plus l'année d'après, ils montent les primes, tu vois, ça joue le jeu. Donc voilà, les pilotes, c'est pour ça qu'on fait le déplacement, qu'on vient, qu'on joue le jeu aussi. Et non, ça marche et ça tire vers le haut, quoi.
Et du
Ouais,
coup, du point de vue d'un club, quel est l'intérêt d'organiser un championnat de France élite aujourd'hui? Toi qui connais un petit peu l'aspect club aussi, c'est pour ça que je te pose la question.
Et ben, nous, on nous pose souvent la question, d'ailleurs, pourquoi vous faites pas une élite au Costières? Mais le coût, ça coûte trop cher, quoi. Ça
Oui,
coûte
le
trop
coup, après,
cher.
il est connu, on peut l'annoncer. Enfin, je ne l'ai pas en tête, mais ça, si vous regardez en ligne, vous pouvez le trouver. Oui, c'est sûr que c'est pour avoir le plateau complet les 2 jours,
Et
c'est
ouais,
très très cher. Ouais.
c'est très cher, c'est sur 2 jours, donc ça coûte le double. Je pense que pour les clubs, c'est super cher. En plus, voilà, il faut que les parkings ils soient immenses parce que tu fais le junior, le cadet, le MX2, le MX1. Ça fait du monde sur place tout le week-end, quoi. Et il faut des parkings, il faut du budget pour organiser. Tu as la pression parce qu'il faut du coup faire des entrées et des spectateurs pour rentabiliser. Ah, c'est
Ah,
bon.
j'aurais plus de budget pour l'électricité. Il fallait
Plus
faire une place de mieux à Tomer, je
de
pense.
et puis
Ouais,
voilà, quoi.
du coup, moi, la question que j'ai par rapport à ça, c'est quand t'es club, en fait, à part peut-être au niveau des. Tu vois, des conseils régionaux ou un truc comme ça, où ils ont des primes parce qu'ils organisent un championnat de France. Quand ça s'appelle championnat de France, on est plus sujet à obtenir des subventions. Mais mis à part ça, c'est quoi l'intérêt d'organiser un championnat de France élite par rapport à un cross inter? Puisque de ce que tu me dis, il y a moins de public, on a moins de pilotes derrière la grille, les pilotes gagnent moins d'argent, donc les clubs gagnent moins d'argent aussi. Au final, c'est. Enfin, je me. Voilà, je me. Je sais
Ouais,
pas, je me pose
c'est
des
un
questions.
questionnement qui est juste. On peut se questionner de voilà, à la place du club, pourquoi faire ça? Et même toi, enfin, est-ce que si tu remplaçais tous les week-ends de l'élite par un cross inter comme Tomer, est-ce que tu préférerais pas?
Ah oui, non, mais ça c'est sûr, mais je pense que c'est pour ça que Sommières, à un moment, ils faisaient l'élite, mais ils ont arrêté, il faut un inter. Ben, Tomer aussi, ils ont eu fait l'élite, mais du coup, il faut un inter parce que ça attire plus de pilotes à venir chercher des primes. Bon, après, tu vois, à Sommières, les mecs de GP, ils viennent parce que ça leur fait aussi une course de préparation. Mais bon, je veux dire, tu as quand même un bon billet à venir chercher. L'élite, quand tu sors du top 4, on va dire, top 5, tu fais même pas 1000 euros le week-end, quoi. Donc c'est chaud, quoi. C'est chaud.
On a une bonne remarque de Rodolphe, d'ailleurs, je n'avais pas pensé. Rodolphe qui te demande si le fait de. Est-ce que tu pourrais pas avoir un contact avec la Yamaha officielle de GP, soit toi, soit Maxime, étant donné qu'il y a les deux pilotes blessés.
Ouais, je sais pas. Moi, j'ai pas eu de contact. Après, je sais pas. Je pense que Max non plus. Mais ouais, j'ai pas posé la question aussi. J'ai vu Ben pâturer ce week-end si il lui avait pas demandé aussi. Mais non, j'ai pas eu de. J'ai eu zéro contact.
Ils doivent être en train de se creuser la tête, je pense, chez Yam pour trouver quelqu'un.
J'ai vu passer Kellett.
Après, il y a Kellett, qui va rouler ce week-end. Ouais.
Kellett, je savais pas si c'était un poisson d'avril ou pas, c'est pour ça que j'ai rien dit.
Ouais, c'est sûr, ouais, c'est sûr.
Mais c'est sûr, ouais, c'est ça, c'est vrai.
Ouais. D'accord. Ouais, c'est vrai.
Bon, on verra bien ce que ça donne, mais c'est vrai que c'est pas mal.
Ouais.
On a eu aussi. Alors. Je bascule sur autre chose. Hein. C'est pas grave, on reviendra après sur l'élite et sur le.
On va essayer de sauver l'élite avec nos lives.
Le GP. Mais on a eu aussi l'altercation du week-end et on a eu la question aussi tout à l'heure en commentaire. C'est pour ça que je le mets entre Jet Lawrence.
Greg peut en parler. Il a déjà eu des frictions un petit peu avec Justin Barcia. Donc,
justement, mais c'est pour ça.
Ça va être bien d'avoir l'analyse.
Et ça m'intéresse d'avoir ton avis sur la question où on voit, on peut appeler ça quand même un attentat. On peut tourner dans tous les sens. C'est quand même un attentat, qu'il soit involontaire ou volontaire. Il l'a quand même bien fracassé, il est bien allé lui taper dedans. Et je pense qu'il
après, ceci dit, si c'était pas lui, il y avait Freeze derrière, donc c'était là même en fait.
Ouais, c'est sûr, on le voit au ralenti.
On le voit sur l'image. Ouais. Ouais.
Mais après, tu penses quoi, toi, d'un point de vue pilote,
d'un point de vue qui s'est
déjà frotté à Barcia? Tu penses quoi?
Après, tu vois, je pense que pour une fois, quand même, Barcia, c'est pas complètement sa faute. Tu vois, Lorenz qui recoupe. Lui, il arrive pour ne pas se faire couper en deux par Freeze à l'Inter. Il arrive droit à l'Inter. Donc, tu vois, pour une fois, je pense que c'est pas vraiment de sa faute. C'est un fait de course. Mais ça me fait rire quand il dit que c'est pas mon style. Ça me fait juste rire, ça. Mais après, sinon...
Ouais, c'est quoi, sa vidéo, elle était top. Franchement, c'est sur sa classe, sa réaction, le fait qu'il se parle à la fin de la course et tout. Le post Instagram qu'il fait, il est classe, mais ouais, c'est vrai qu'il déraille un peu quand il dit c'est pas mon style. Bon, là,
j'en crois pas, Justin. C'est pas mon style, c'était marrant, mais sinon, pour une fois, tu vois, je pense vraiment que c'est un fait de course, quoi.
Ouais, moi, c'est pareil. Je trouve que là, Jet a fait une erreur de recouper à ce moment-là.
Ouais.
Après, même si Barcia.
Les premiers tours comme ça, t'es un peu en paquet. C'est un fait de course, ça va tellement vite, tu imagines même pas là, quand tu es au milieu là, c'est surtout là leur niveau et tout, c'est les prises de décision, c'est des fractions de seconde et lui il s'est dit je recoupe et l'autre il est arrivé et voilà, ça a duré.
L'autre il voulait pas se faire couper, du coup il est arrivé en planche à l'Inter et c'est ça, c'est un fait de course, c'est mauvais endroit, mauvais moment vraiment.
Et puis l'effet de course ont fait qu'il y a eu, il y avait l'autre derrière en plus, derrière Barcia. Donc c'est les deux pilotes les plus agressifs, un pilote agressif et un pilote un peu débile qui sont là regroupés. Donc,
c'était obligé qu'il se passe un truc.
Ouais, pas simple. Bon, après, comme tu dis, Barcia a été classe, il est allé s'excuser deux fois, on l'a vu sur plusieurs vidéos, il a fait ce qu'il fallait, je pense, pour pas être pour une fois. Ouais, d'ailleurs, il a pas été sanctionné ce coup-ci.
Non,
ça veut dire que la plupart, même les officiels ont considéré que c'était un fait de course. Et...
Ouais.
Donc
c'est après, les officiels ont considéré qu'il fallait mettre un drapeau blanc à la Croix-Rouge alors qu'il y avait juste un garde-boue arrière de la moto de Freeze qui dépassait sur la piste, sur le saut d'arrivée, sur la manche d'avant, où il déclasse Jet Lawrence et d'autres pilotes aussi qui ont sauté sous le drapeau blanc. C'est pareil, là, ton avis de pilote, Greg, c'est chaud quand même, c'est chaud parce qu'il y a le drapeau à damier, il y a le drapeau blanc qui signale le tour d'avant, il y a le drapeau blanc qui signalait le dernier tour, il y a le drapeau blanc avec la Croix-Rouge qui est juste derrière, qui n'est même pas agité.
C'est que tu avais le drapeau blanc dernier tour agité et l'autre en dessous qui ne bouge pas avec le drapeau blanc Croix-Rouge. Enfin, franchement, c'est
chaud. Ouais,
j'ai été déclassé cette année au SX Tour aussi pour un drapeau jaune et un drapeau blanc quand le clocher était tombé. Et des fois, franchement, quand tes pilotes... Nous, on sortait d'un virage, on sautait sur un on-off et tu étais en train de faire le off, tu vois le drapeau. C'est, comme je dis, c'est des prises de décision qui c'est des fractions de seconde. Et lui, là, il voit rien sur la piste. Et, enfin, voilà,
c'est,
Ouais, bon, c'est comme ça. Après, la règle, c'est la règle.
Ça aurait été grave, le commissaire aurait été au milieu de la piste en train d'ajuster le drapeau. Là, il était sur le bord tranquille. Bon,
c'est comme moi et Sixto, là, avait dit si le mec il est au milieu, qu'on le voit, quoi. Mais quand le mec il est comme ça à côté et qu'il ne bouge pas, toi, il n'y a rien sur la piste. Après, le règlement, c'est le règlement. C'est comme ça.
Ouais, comme tu dis, des fois, ça se joue en une fraction de seconde et au bord de la piste, on a vite fait de dire ah, il aurait pas dû, mais bon, c'est le cerveau, des fois.
Dans la moto, c'est chaud.
C'est pas évident. Du coup, l'entraînement que tu fais, toi, à l'heure actuelle, tu le qualifierais de comment? De rythme de croisière, de dur, d'intensif? Ça serait quoi? Tu le qualifierais ça comment?
Après, on n'a vraiment pas eu beaucoup de temps pour s'entraîner en cross, parce qu'on a fini mi-janvier le SX là, à Dortmund. Du coup, avec DJ là, et Max aussi, on a décidé de s'entraîner un peu différemment cette année, à essayer de plus se retrouver de la technique et d'arriver à aller vite sans trop se fatiguer pour pas avoir à bosser énormément physiquement et se cramer. Donc, on est vraiment plus sur du travail technique sur la moto et on roule beaucoup et c'est vraiment du qualitatif quoi. Donc ouais, c'est plutôt cool. Franchement, l'entraînement, c'est pas un truc où on y va à contre-cœur à se dire ah, putain, aujourd'hui ça va être trop dur. C'est vraiment à chaque fois qu'on s'entraîne, c'est de la qualité et c'est pas très long, donc c'est top.
Quand tu dis qualitatif, ça m'intéresse de savoir comment tu roules de manière qualitative, parce que c'est vrai qu'on parle souvent avec des pilotes d'autres niveaux, on va dire niveau plutôt ligue, et qui se disent ouais, ben, je fais comme eux, je fais des manches, je fais des chronos. Et qu'est-ce que tu appelles toi qualitatif?
Ben, ça, en fait, quand tu deviens pilote pro, t'en oublies un peu de travailler la technique. Mais tu vois, on s'est rendu compte cette année quand même que, enfin, déjà depuis l'année dernière, que de revenir à faire pendant les entraînements quand même des bonnes sessions à travailler juste des portions ou du technique, quoi, ça a aidé plutôt pas mal. Donc, on a vraiment joué sur ça cette année et ça paye plutôt bien puisque Max roule super bien aussi. Et c'est propre, enfin, ça roule debout, ça fait pas d'erreur, c'est pas à l'arrache, quoi. Donc, c'est ça qui est bien.
C'est vrai que c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'à vous voir rouler tous les deux et ça on vous voit à l'aise, on dirait que vous êtes affûté. Et si tu penses que ça vient aussi du fait que techniquement vous avez évolué tous les deux?
Ouais, ben après c'est toujours pareil. Hein. C'est quand tu vois des Jet Lawrence, des mecs comme ça fait rêver les positions qu'ils ont. Et même Prado en MXGP. Enfin, moi je trouve que Prado en MXGP et Lawrence aux US, ça se ressemble quand même beaucoup. Et je trouve qu'ils ont, voilà, ils ont. Tu prends 3 ans en arrière, je trouve que ça a attaqué vraiment. Tu regardais les US, ça attaque fort. Je dis pas là que ça attaque pas, mais c'est quand même, c'est vraiment beaucoup. Tu vois les mecs qui ont repris des positions pointe de pied, debout, essayer de rester longtemps debout. Je trouve qu'on est revenu sur du gros technique pour aller très vite, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'il nous inflige une mode là qui est difficile à adopter, mais c'est hyper joli, technique, fluide, tout est quasi parfait quoi, chez ces deux pilotes tardants. Hein, c'est vrai qu'on a vu comme Sexton avant, mais qui paraissent du coup à côté de Lawrence beaucoup plus un peu plus acharné, un peu plus poussif que des gars comme ça qui sont à la limite de la perfection, quoi.
Ouais, c'est clair, tu prenais un mec comme Sexton là, quand il avait la Honda et tout, déjà à l'époque enfin, je trouvais que c'était vraiment propre et pourtant je trouve qu'il passait beaucoup de temps par terre alors qu'il roulait vraiment vraiment propre, c'était précis et tout mais ouais, après quand t'as Lawrence qui est arrivé là, c'est encore un petit ton au-dessus mais ouais, après t'as toujours quand même Webb qui est toujours là, il fait quand même rêver, il lâche rien, c'est un lion ce mec. C'est incroyable.
On a l'impression qu'il a deux questions pour toi en commentaire, Greg. Alors les deux sont à l'opposé. Je te pose pour celle qui pour moi est la plus probable. Ralitt qui nous dit sur YouTube, aux US, c'est pour quand? Est-ce qu'on te verra un supercross aux US? Ou en motocross d'ailleurs, si tu préfères.
C'est pas impossible. Après, on avait essayer de regarder pour y aller cette année, mais ça faisait vraiment limite avec l'élite, Dortmund au milieu et tout ça. Mais ouais, c'est encore dans un coin de la tête avec le team. Donc pourquoi pas? Je pense pas en cross, je pense pas en cross, mais ça serait plus en SX.
Ah ouais, SX du coup,
Ok,
ça serait.
vas-y.
Juste pour terminer sur ça, parce qu'on a aussi la question sur Instagram, ce que j'étais en train de regarder. Toi, tu es plus SX ou MX, et du coup, si tu partirais aux US, ça serait plus SX, et c'est un choix de ta part ou un choix du team?
Ouais, moi, vraiment, je suis vraiment SX, quoi. Je fais du MX parce que c'est bien pour le team et nous, ça nous aide pour le SX aussi. Je pense que si tu roules devant MX et que tu bosses en SX, tu arrives à rouler aussi devant en SX et vice-versa. Donc, l'un apporte à l'autre. Donc, voilà, toi, tu entendais souvent des teams qui empêchent leurs pilotes de faire du SX quand tu es en MXGP. Ils leur disent carrément que c'est interdit, que c'est trop dangereux, machin. Mais je pense que là, avec Prado qui est revenu et qui est un ton au-dessus de tout le monde, alors qu'il a fait du SX tout l'hiver et il a roulé un mois en cross avant la saison, je pense qu'il doit avoir une autre vision du SX, là, les teams. Donc ouais, ça apporte. Mais quand même, ouais, je préfère les SX.
D'accord. Et du coup,
Allez,
ça serait un
d'autres
4.
questions. J'étais sur Facebook et ça n'a rien à voir avec le SX. Ah, quand une saison de sable. Avant la retraite, quand même, tu pourrais faire le CFS.
Non, c'est bon. Mais mon pote Bog, il a dit que peut-être il allait faire un petit touquet.
Ah, joli ça.
Ah,
Ça,
c'est
c'est.
bon, ça. J'aime bien les petits scoops comme ça.
Non, il rigole, c'est un poisson d'avril.
Non.
Bon, c'est cool. On a notre invité qui vient d'arriver. Il était un petit peu en retard, mais ça, je vois qu'il se met en place en off. Greg, est-ce que ça te dirait de lui donner un conseil à notre invité là? On le fait rentrer, tu lui donnes un conseil. Tu sais qu'il est jeune, c'est Mathis Valin. Il est en pleine progression en ce moment. Si on le fait rentrer là, est-ce que tu te sentirais lui donner un conseil comme ça à froid là?
Ouais, pas de souci. Pas
Allez,
de souci.
vas-y. Salut Mathis, et t'arrives à froid direct un conseil du boss Grégory Aranda.
Ouais, je lui dirais juste de continuer comme ça et de rêver grand et d'essayer d'aller au bout des choses. Et en fait, si tu crois, tu pourras le faire. Donc, garde les choses qui sont les plus folles dans ta tête, dans le coin de ta tête, garde-les et essaie d'aller au bout, quoi. C'est parce que c'est 80% dans la tête. Donc voilà.
Oh,
Parfait,
c'est beau ça. Et
merci.
sans taper sur Google,
Ah.
citation, motivation, etc. Allez, il me l'a
Ouais,
sorti comme
bon,
ça. Parfait.
80% c'est dans la tête, donc s'il y croit et qu'il continue comme ça, il est bien parti. Il a encore mis du gros gaz dimanche et c'est cool, c'est propre. Pareil, comme je disais, ça pilote et voilà, il faut continuer dans ce sens, quoi.
Merci en tout cas.
Pas de
C'est
souci.
top, Greg. Merci beaucoup. En plus, c'est vrai que ça, c'est pas le genre de truc que vous vous dites, je pense, en vous croisant dans les
Non, on se voit
paddocks.
pas beaucoup, on se voit pas beaucoup en plus.
Parfait,
Bon, cool.
merci
Merci
beaucoup.
Greg, bonne soirée à toi et bon appétit. Du coup, on t'a
Allez.
coupé en plein repas tout à l'heure. Le
Ça
bonjour à Bog et à toute la famille.
marche. Ciao, merci.
Salut
Allez.
Greg.
Ciao.
Bon, Mathis.
Salut Mathis, comment ça
Salut.
va? On t'a
Ça.
accueilli à froid, t'as vu, direct, bam, un conseil. C'est comme ça chez Amix Réflexion. On en prend plein la poids, comme ça, là, des conseils, des commentaires négatifs, des commentaires positifs. Là, tu vas voir, ça va fuser. Bon, comment
Non,
ça
c'est
va
pas grave.
après ce beau week-end à Castelnau? Première victoire, félicitations. C'était quelque chose que t'espérais déjà d'entrée de jeu en ce début de saison?
Non, en vrai, pas forcément. C'est pas un truc que je m'attendais. Après, on a bossé tout l'hiver, donc forcément, je suis pas venu là pour faire cinquième, hein, comme tous les pilotes qui sont là. Mais bon, je m'attendais pas forcément à bien rouler. Surtout à Casteno, c'est pas forcément mon type de piste préférée. Mais bon, j'ai gagné et je suis quand même content.
Tu l'as appréhendé comment ce week-end? Tu l'as Parce que toi, alors, on peut imaginer que vu que tu es vers Majesque, tu roules souvent dans le sable. Est-ce que toi, tu es allé rouler sur des terrains béton avant ce week-end ou pas?
Ben, honnêtement, avant ce week-end, il a plu à Osgore. Donc, on a fait du sable et des grosses ornières. Donc, pas du tout ce qu'on a retrouvé ce week-end. Et en plus, le sec béton, c'est pas quelque chose que je suis très fort. Donc, ça m'a quand même surpris d'être dans le coup et de me battre devant, quoi.
Ouais, du coup, t'as pas de. Enfin, c'est grâce à des week-ends comme ça qu'on voit que tu arrives à rouler bien sur toutes les surfaces. Parce que si tu peux. J'imagine que tu dois être rapide dans le sable maintenant en t'entraînant souvent sur des terrains comme Majesque et dans le sud-ouest. Là, on t'a prouvé que tu étais rapide sur du béton. C'est bon, toi, il n'y a pas de surface sur lesquelles tu te sens plus à l'aise que d'autres?
Non, pas forcément. Après, moi, je vais pas me vanter, mais je suis pas un pilote polyvalent. J'aime tout. Le sable, la terre, les ornières, À part le steak béton, c'est quelque chose que j'aime pas forcément de ouf, mais bon, je suis en train d'apprendre et je sais que cet été, à Hossegor, c'est steak béton, donc je vais devoir apprendre, mais moi, je suis polyvalent, j'aime tout, donc ça me dérange pas dans tous les cas.
Tu as été pendant depuis ton plus jeune âge avec Valentin Tellier qui t'a beaucoup coaché. Aujourd'hui, le Timbod Racing, si je ne me trompe pas, c'est t'es à 100% avec Thierry Vandenbosch.
Ouais, c'est ça exactement, 100% avec Thierry Vandenbosch depuis que je suis rentré dans le team. Donc, c'est quelque chose de différent quand même des 4 dernières années que j'ai pu passer avec Valentin, mais c'est quelque chose qui me plaît quand même.
C'est bien de faire des choses différentes. Est-ce que tu étais arrivé dans un stade de ta carrière où tu commençais à ressentir que tu avais besoin de changement?
Non, pas forcément. C'est pas quelque chose que je veux dire que j'avais besoin dans ma vie. J'étais très bien avant. Je vais pas dire que maintenant je suis pas du tout bien, non. Après, c'est sûr que le fait d'être tout seul, d'avoir mon appart tout seul et mon indépendance, on va dire que ça a vachement changé pas mal de choses de ma vision des choses. Je vais me démerder tout seul, je vais faire mes petites merdes, on va dire, tout seul. Donc, c'est quelque chose qui change beaucoup et franchement, j'apprécie. Donc, c'est pas quelque chose qui me dérange.
Ouais, et justement, ça te fait du bien, ça, d'être seul, indépendant, ou au contraire, c'était difficile au début.
Non, moi ça fait longtemps que je suis prêt à partir. Dans tous les cas, j'étais prêt à partir depuis 2 ans. J'étais prêt à partir de chez mes parents. Hein. Je ne vais pas dire qu'il me manque pas ou quelque chose comme ça. Juste, j'aime bien vivre tout seul. J'aime bien avoir mon indépendance et je vis comme ça, quoi.
Et tes quotidiens, du coup, ça se passe comment? Tu vis seul, c'est au-dessus de chez Bud, c'est ça? Ils ont des appartements, ça
Ouais,
c'était quoi
c'est
déjà
en
comme
face de chez Bud, on va dire à peu
ouais, en face
près.
de chez Bud, et ensuite, et du coup, t'es constamment avec Thierry ou non? Tu te gères par exemple le matin et tu le vois que l'après-midi, ça se passe comment pour toi?
Bon, non, en fait, du coup, on va dire, c'est un peu une, enfin, pas une résidence, mais on va dire, on est en gros dans l'endroit où je suis, il y a 2 apparts, donc il y a mon coéquipier qui est l'appart juste à côté, et moi j'ai mon appart, donc on est complètement à côté de Thierry, et en général, on se rejoint avec Thierry directement à la piste ou à la salle de sport ou des choses comme ça. Et vu que je suis juste à côté du team, c'est quand même pratique pour aller directement là-bas pour partir à l'entraînement, j'ai pas besoin de me déplacer en voiture ou quelque chose comme ça, donc c'est direct et je suis juste à côté, quoi.
Ah d'accord, et du coup Thierry Vandenbosch fait aussi l'entraînement physique, pas que la technique moto. Il fait un
Non.
suivi très complet du coup.
Ouais, il fait tout. C'est lui qui. On fait pas mal de trucs mentaux. Nutrition, il nous fait quand même quelque chose. La moto, physique. Donc en gros, c'est un global, quoi. Il fait tout.
D'accord. Mental, vous bossez quoi? C'est sophrologie, c'est des choses comme ça?
Ouais, en gros, c'est ça.
Ouais, on fait un point sur le championnat pour ceux qui ne l'ont pas vu. Tu le regardes d'ailleurs ce championnat toi ou pas encore?
Franchement, pas du tout.
Non, tu regardes pas, c'est pas quelque chose. Toi, le but c'est d'arriver le week-end de performer plutôt que d'avoir par exemple le titre ou faire un top 3 à la fin de la saison.
Je vais pas dire non que je regarde pas, je regarde forcément après chaque week-end, on va dire à peu près combien je suis, mais c'est pas quelque chose qui m'importe, quoi. Quand j'y vais le week-end, c'est pour performer, pas pour forcément penser championnat.
Ouais, bon, parce que du coup, là, tu peux commencer à y penser. La toute première manche de l'année où tu t'es raté un peu, mais après, on voit quand même que ça scorait assez gros sur les 3 dernières manches. Donc voilà, le team ne t'a pas donné d'objectif sur les divers championnats que tu fais.
On n'en a pas forcément parlé. De base, c'est une année d'apprentissage pour moins de 50. Hein. Je monte tout juste du 125. Donc, on n'a pas forcément parlé de résultats. Même avec Thierry, pas forcément des résultats. Juste rouler au meilleur que je peux, de ce qu'on fait à l'entraînement, de ce qu'on bosse. Et on verra le résultat que ça donne, quoi. Me donner à 100%.
Et du coup, si on parle
On a,
des
ouais.
pardon, Nico, juste pour du coup, si on parle des épreuves que tu fais entre l'élite, l'Europe, on sait qu'à l'élite, qu'il y a quand même un bon niveau parce que tu te frottes à des gars comme ton coéquipier Mathis Boramé, Tom Guyon, il y a vraiment de bons pilotes. Et en Europe, il y a aussi de bons pilotes. Tu verrais quoi comme différence entre ces deux championnats pour toi? Quel est le plus compliqué des deux, sachant que si je me trompe pas, t'es second à l'Europe
C'est
et
ça, ouais.
t'es trois à l'élite, quoi.
Ouais, en vrai, c'est des trucs complètement différents. Pour moi, l'Europe, c'est quand même un peu plus dur. On va dire que déjà, en fait, pour jouer la victoire, on est au moins 7 pilotes. Je veux pas dire qu'au France, on est forcément 7, mais on n'est pas les 7 premiers à rouler forcément dans la même seconde tous les tours et être pareil. Soit au chrono, on aura l'Europe, je fais 5e, je fais à 0,6 de la pole. Donc, tu vois, ce qui est quand même. qui est quand même très très serré. Donc on va dire que c'est beaucoup plus homogène. Mais en France, il y a quand même des gros pilotes. Hein. Bouramé, c'est quand même un ancien pilote qui a fait des épreuves de mondial. Guyon, pareil. Mon coéquipier, moi, enfin, il y a quand même un bon niveau en France. Mais pour moi, ça restera quand même l'Europe le plus dur parce que c'est beaucoup plus homogène et c'est comme ça toutes les manches, quoi.
Ouais, et est-ce que tu penses que les pilotes de l'Europe ont plus de physique? Je veux dire par là, est-ce que tu sais, moi, franchement, j'ai l'exemple encore de quand nous, on passait de la Ligue au National, on se disait, en Ligue, tu pouvais terminer ta manche tranquille, tu n'avais personne derrière. Au National, tu avais toujours quelqu'un derrière qui roulait à ton niveau. Est-ce que tu ressens ça aussi, toi, quand tu fais l'Europe? Le fait d'être jamais
Ouais.
tranquille, toujours avoir quelqu'un qui est à bloc derrière et qui remonte.
Ouais, c'est sûr. Bah, de toute façon, quand on est à l'Europe, c'est tous des crèves la dalle, hein. On veut tous gagner, donc on veut tous se donner à 100% et on veut tous aller au bout pour même si on doit choper une place au dernier virage, on ira. Que quoi qu'il se passe, on ira. Et donc après, en France, on le retrouve aussi, hein. Par exemple, je sais que si j'ai Benjamin à mon cul toute la manche et à la fin, même si c'est le dernier tour, il va vouloir me doubler, hein. Et forcément, il va vouloir gagner une place, comme tous les pilotes, on va dire.
Et il y a une rivalité d'ailleurs entre Benjamin et toi, ou pas?
Bah franchement, on s'entend vraiment hyper bien. On est tous les jours ensemble, on rigole tous les jours et tout, mais pas énormément. Je sais que après, je vais faire la part des choses. Hein. S'il vient me bloquer passer un jour sur la piste, on est sur la piste, on n'est pas en dehors. Donc, je trouverais ça normal, hein, complètement. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange.
J'ai halluciné, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une année d'apprentissage, et j'ai halluciné après ta belle performance de l'année dernière, de te voir partir de chez KTM, entre guillemets, parce que t'étais sur des gaz-gaz, mais c'est le groupe KTM. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que KTM t'a retenu? Est-ce que t'as pesé le pour et le contre? Ou est-ce que Bud Racing, c'était la seule option que tu avais?
En fait, ça s'est fait vraiment très 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 tôt dans la saison. J'avais même pas, honnêtement, j'avais pas fait de course encore d'Europe et que j'avais déjà signé chez Bud Racing. Donc après, c'est pas quelque chose qui m'a retenu. J'avais vraiment un bon contrat et moi, ce qui est bien chez Bud, c'est que je peux faire du sable. J'ai fait le Touquet cette saison. J'étais aux États-Unis. J'ai fait du Supercross de la saison de motocross. En saison, je pense qu'on va faire du Supercross. Donc ils sont vachement ouverts à tout. Si j'aurais été dans un autre team. Un team de GP, j'aurais pas forcément eu l'opportunité d'aller faire du SX, d'aller faire le Touquet et d'aller faire plein de choses comme ça, on va dire.
Ouais, et toi, du coup, l'objectif, enfin, déjà, si je reste sur la question de Nico, t'es pour combien de temps chez Bud? T'as signé pour combien de temps?
J'ai signé pour 2 ans, donc la saison que je suis en train de faire là et la saison d'après.
D'accord. Et l'objectif pour toi, à long terme, c'est quoi? Parce que tu nous as parlé de sable, de SX, de MX. Tu te verrais plus sur une carrière, comme le disait Greg tout à l'heure, si tu rêves grand, une carrière Europe mondiale, une carrière Europe SX, MX aux US, ça serait quoi, toi? L'idéal.
Moi, de toute façon, c'est ce que je dis tout le temps, dès que j'ai l'opportunité, dès que j'ai l'occasion d'aller aux États-Unis, j'irai sans réfléchir. Peu
Ouais,
importe
même si
que
t'as pas, si t'as pas fait ce que tu voulais.
si j'ai pas fait de saison en MX2, que j'ai fait une fois champion du monde ou quoi, dès que j'ai l'opportunité, j'irai. C'est sûr à
Ça
100%.
rappelle le discours de Lucas Koenen qu'on a eu dans le live il y a 3 semaines. C'est exactement le même discours que toi. Quoi qu'il arrive, tu te vois là-bas, quoi.
Ouais, c'est ça. Dès que j'ai l'opportunité, j'irai.
Ouais, il te faut un bon guidon et puis tu pars.
Ouais.
Et du coup, avec Stéphane Dassé, vous en avez parlé de ça, de cet objectif que tu as de partir là-bas vous n'en avez pas parlé du tout.
Non, pas forcément. Après, on a été cet hiver. C'est un truc que j'ai kiffé. Je fais un peu de SX et tout. Normalement, on doit y retourner l'hiver prochain, hein, comme tous les ans, Bud Racing y font. Donc, je pense que je vais faire encore plus de SX et tout. Donc, en plus, qu'on a vu que Prado avait fait toute la saison, enfin tout l'entraînement hivernal en SX, il arrivait en mix, il n'était pas perdu, donc ça a quand même vachement, je pense, ça a vachement bougé les choses dans tous les points de vue de tous les entraîneurs, on va dire que même si tu fais du SX, bah en MX, tu peux être là, tu peux être présent, hein, comme on voit Prado, je vais pas dire qu'il se balade, mais il est quand même bien au-dessus en 450 pour le moment, donc je pense que ça a
Ouais, il a
changé
bien
pas mal de
travaillé pour
vision.
vous. C'est sûr que là, au niveau des teams, il peut faire changer
C'est
quelques avis, ouais, c'est sûr.
Ouais,
En
c'est
fait,
ça.
ça me fait halluciner comme un pilote peut changer la mentalité de tous les pilotes et limite de tous les teams. Parce que c'est vrai que je vais
De toute
avoir un
l'industrie au
exemple,
final, parce que là,
toute l'industrie.
ouais,
Parce
on n'a jamais vu.
qu'un Prado qui fait exactement la même chose et qui arrive au MXGP et qui fait 10, bah, du coup, tout le monde se dit le SX, c'est de la merde, jamais, jamais il faut en faire. Là, il gagne. Alors que tu peux faire ça avec 10 pilotes, peut-être que sur les 10, il y en aura 8 qui vont contre-performer et il n'y en aura que 2 qui vont surperformer.
Ouais,
Je
c'est
trouve
ça.
que ça, que c'est un peu. Après, c'est bien pour vous, parce que du coup, ça vous permet d'ouvrir un peu les contrats, de faire un peu plus de SX, et c'est ce que vous cherchez, je pense. Mais c'est
Ouais,
vrai
c'est
que c'est quand même bizarre ça, que un pilote arrive à faire bouger les choses aussi facilement.
Sûr que ça, je pense que ça a ouvert pas mal de portes pour pas mal de pilotes. Après, ce qui est bien aussi, c'est que tout le monde attendait le tournant. Tout le monde l'attendait. S'il gagne pas, bah, tout le monde allait le critiquer, forcément. Mais vu que là, il a gagné, je pense que ça a vraiment changé pas mal de choses.
Ouais, donc c'est une bonne chose.
On a parlé de pas mal de choses aussi. On a parlé de sable, de SX, de motocross. Il y a un truc qu'on n'a pas parlé, c'est Fortnite. Parce qu'on a Evan qui nous dit qu'il pense que. Est-ce que tu penses avoir plus d'heures de moto ou de Fortnite?
Non, pas forcément. J'aime juste bien de temps en temps le soir, justement avec Evan, de faire quelques parties et quand j'ai le temps, quoi.
C'est une question qu'on pose à quasiment à tous nos invités, ça. Et c'est combien d'heures tu passes sur ton téléphone? Tu sais à peu près ou pas?
En vrai, je sais pas du tout. Bah, peut-être là un peu plus parce que on fait un peu moins de sport, un peu moins de moto, mais je sais que cet hiver, j'avais pas forcément énormément de temps d'être sur mon téléphone. Donc, en vrai, je sais pas du tout.
Ouais, en termes de temps, c'est ce que j'allais te poser aussi comme question. T'as des semaines très chargées ou pas? J'ai discuté il n'y a pas si longtemps que ça avec un footballeur pro de Ligue 2. Tu vois, c'est quand même pro. Enfin, ils gagnent mieux leur vie en Ligue 2 que beaucoup en motocross. Et il me disait, lui, non, très franchement, la semaine, ça va. On a quand même le temps. On fait un gros entraînement, avec deux entraînements par jour, mais on a quand même le temps. Est-ce que toi, c'est pareil ou pas?
Non, moi pas du tout. Enfin, depuis que je suis arrivé chez Bud, ma nouvelle vie, on va dire, ça a tout changé. Je suis arrivé, moi j'avais rien le temps de faire, surtout que j'avais mon appart, j'avais fermé mes machines à laver, me faire à manger, aller faire les courses, le sport, la moto et tout. Franchement, début d'hiver, le premier truc que j'ai dit à mes parents, c'est que j'ai le temps de rien faire. C'est le premier truc que j'ai dit. J'étais fatigué, je faisais des siestes et tout, donc j'avais rien le temps de faire.
Ouais, c'est là,
Ouais, c'est
c'est
un vrai
le.
boulot au final, quoi. Là, ça devient vraiment un boulot, comme beaucoup peuvent connaître ceux qui sont sur, je sais pas, des maçons, des artisans qui sont sur les chantiers la semaine, qui rentrent le soir, qui doivent se gérer des trucs comme ça. C'est sûr, sauf que toi, tu es plus jeune, donc on t'a jamais forcément appris à faire tout ça. Et en plus de ça, tu fais beaucoup de sport, donc tu dois être complètement claqué.
Ouais, c'est ça. Après, là, ça s'est calmé un peu parce qu'on a eu le début de saison, donc on roule un peu moins, on fait un peu moins de sport, on fait plus de l'entretien. Donc là, on va dire que peut-être pour le moment, on va dire que c'est plus cool, mais je sais que cet hiver, j'en ai vachement chié quand même.
Ça reste un plaisir quand même.
Ouais, franchement, bah, peut-être en fin de saison, non, j'en aurai peut-être la dose, mais là, pour le moment, pour toutes les heures qu'on a passées cet hiver sur la moto, ça ne m'a pas dérangé et je prends toujours autant de kiff à rouler.
Ouais.
Ou même que
Mais
ça soit le sport. Hein.
on sait qu'il y a des pilotes qui sont drivés par le résultat et d'autres qui sont drivés par le plaisir de rouler. Toi, tu dirais quoi que tu es dans quel cas de figure?
Moi, je pense que je suis plus dans le plaisir de rouler. On va à l'entraînement. Si un jour tu croises mon mécano, tu pourras lui demander. J'aime bien faire pas mal de trucs techniques, faire le con. Enfin, je préfère m'amuser que penser résultat et voilà quoi.
Ouais, le
C'est perçu
résultat,
comment
tu.
ça à partir d'Evan Bosch par ton entraîneur, justement? Bah, en vrai, je sais quand il faut bosser, je bosse. Quand je sais, des fois, j'arrive à la fin ou au milieu d'entraînement, quand on doit faire une pause, je suis un peu le con et je m'amuse un peu sur la
Ouais, si te
moto et
reste un quart
voilà.
d'heure en fin de journée pour faire des whips, il va pas te dire non, tu restes au camion, quoi.
Non, faut juste que je reste concentré et pas me blesser sur un truc con comme ça, quoi.
Et Thierry Van den Bosch, il est comment à l'entraînement? C'est un gars qui est. Plutôt réfléchi, enfin pas réfléchi, mais c'est un gars qui va savoir prendre des décisions ou te dire à un moment donné non, là je sens qu'il faut se calmer un peu. En gros, quand il te pousse, il te pousse, il te pousse, il sent le moment où tu vas avoir la rupture, ou alors c'est quelqu'un qui va essayer de te pousser à fond. Voilà, comment tu le ressens toi? Par rapport
Non, pas
d'ailleurs
force. Ouais.
à Valentin Tellier que tu as eu avant et avec qui tu as eu vraiment de grosses saisons, de gros entraînements.
Non, franchement, c'est complètement différent parce que Valentin, on arrivait à un stade où il me connaissait, on va dire, par cœur. Donc, quand j'étais fatigué, il le savait. Quand je faisais ci, il le savait. Enfin, bref. Alors que Thierry, tout était nouveau. On ne se connaissait pas du tout. On était plus sur l'écoute cet hiver que forcément sur. Sur il me poussait à fond ou quoi. Après, en général, on avait fait des tests physiques, on a fait plein de trucs au début d'hiver, donc il savait à peu près quand est-ce que je pouvais avoir ma fatigue ou quoi. Donc on s'écoutait vachement, mais non, c'est pas quelqu'un forcément qui pousse jusqu'au bout ou quelque chose comme ça. C'est sûr qu'on fait des entraînements, on a fait des entraînements hyper durs. J'en ai chié, mais c'est normal, quoi. Enfin, je suis là pour bosser, quoi.
D'ailleurs, Greg nous disait tout à l'heure que lui, dans le team, ils sont repartis un peu sur les bases, c'est-à-dire retravailler des parties techniques, des portions, refaire beaucoup de techniques, notamment parce que ben, les Prado, les Jet Lawrence sont maintenant très techniques, très 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 techniques. Est-ce que vous le faites aussi avec Thierry?
Alors moi, quand je suis arrivé au team, c'était bah déjà je devais avoir l'adaptation du 250. Et au début, on a vachement cherché, on va dire, la perfection techniquement. Donc tous les points techniques, les bosser, les bosser, les bosser, les bosser. C'est ce que j'ai fait tout l'hiver. Donc on n'a pas forcément travaillé l'intensité à bloc et tout. On faisait plus, par exemple, une manche de 30, peut-être un peu moins vite que ce que je sais faire, mais être en place techniquement, faire tout parfait. Et tous mes défauts techniques, les bien les régler pour que tout soit parfait, quoi.
D'accord.
On a parlé de Supercross beaucoup avec Jean-Luc Fouché qu'on a reçu il y a à peu près un mois. Il t'a mentionné à titre d'exemple. Alors c'est, je pense qu'il voulait pas du tout te tirer dessus, mais il donnait des exemples sur le fait que ben, les pilotes aient tendance parfois à bouder le Supercross. Toi, c'est quelque chose que tu as fait quand tu étais junior. Tu as fait la SX Academy, je crois que ça s'appelait encore. Et on t'a pas vu du coup. On t'a pas vu cet hiver. Changement de team. Et Jean-Luc Fouché disait mais Mathis Vallain, il a fait quoi en gros depuis sa dernière manche à l'Europe 125 jusque à la première manche de cette année 2024. Donc je te pose la question puisque t'étais pas là quand Jean-Luc Fouché en parlait. Qu'est-ce que tu as
C'est
fait?
ça. Il a peut-être oublié, j'avais fait quand même du SX avant d'arrêter le 125. Hein. J'ai fini le championnat de France SX, d'ailleurs. Ensuite, j'avais quand même les finales du France et pas mal de les finales de l'Europe et pas mal de choses comme ça. Ensuite, moi, j'ai fait ma pause pendant un mois. Donc voilà. Après, Bud, quand je suis arrivé au team, on me proposait de faire Paris. Pour moi, ça servait à rien. Hein. J'avais jamais roulé en 250 de toute ma vie. Je prenais la Kawa, je devais direct aller à Paris. Donc pour moi, c'était quelque chose de impensable. Et c'est pour ça que j'ai pas fait de SX ou j'ai pas fait de SX de Paris. Mais j'avais quand même fait du SX pendant cette saison. J'en ai fait pas mal d'ailleurs. Et voilà quoi.
Donc on te reverra en Supercross.
Ah oui, c'est sûr.
Et Supercross, c'est envisageable de faire le SX Tour, même avec les dates de l'Europe ou pas? C'est ça qui risque de pas être évident.
Ouais, ça va pas être évident. Après, je sais qu'en juillet, on n'a aucune course. Donc peut-être que c'est sûr qu'on va faire des entraînements. Des courses, je sais pas. Peut-être pas des courses. J'en ai parlé avec le team. On ne sait pas encore. On verra. Mais je sais que mon coéquipier, il est chaud aussi pour faire le SX. Donc on essaie de pousser tous les deux pour forcément en faire et peut-être faire des épreuves. Ouais.
Ouais, même si t'es devant de l'Europe, si t'es dans les devants de l'Europe, ça.
Ça, c'est. Être devant l'Europe, c'est sûr, ça n'empêchera pas de faire d'entraînement. Après, aller aux courses, peut-être pas, je sais pas.
D'accord. Ouais, c'est la condition. En général, de
C'est
toute
quoi du
manière,
coup
ça va être.
la différence entre un entraînement et une course en supercross, si tu devais la décrire?
On va dire qu'à l'entraînement, si c'est différent, admettons, je fais une course, je pars devant, j'ai un peu de pression toute la manche. La piste, j'ai pas fait énormément de. On va dire qu'à l'entraînement, je peux prendre mon temps pour faire tous les enchaînements. En course, j'ai 10 minutes pour faire tous les enchaînements. Admettons, je pars devant, j'ai un peu la pression. Hop, enfin, une erreur est plus. Je trouve qu'une erreur est plus vite arrivée en course qu'à l'entraînement, même si ça paraît toujours aussi dangereux. Moi, c'est mon point de vue, quoi.
Les autres autour, ça te perturbe toi ou pas?
Les quoi?
Les
Les autres pilotes?
autres pilotes, le fait d'avoir d'autres pilotes autour de toi.
Non, en vrai, pas forcément. L'année dernière, un peu, quand il y avait Résulis et tout, derrière moi, j'avais un peu de pression, mais franchement, cette année, en Espagne, là, toute la manche, j'ai de la pression, quoi. Franchement, ça a bien été. Je me suis même pas retourné et tout, donc c'est quelque chose que j'ai progressé sans forcément le travailler.
Allez, je relève quelques questions. RallyTTNX qui demande si c'est envisageable de faire de la 450 pour augmenter en physique. Est-ce que c'est prévu ou pas?
J'en ai fait cet hiver, à Riola d'ailleurs, donc ceux qui
Ah ouais,
connaissent la piste, c'est pas
physique.
tout simple. Franchement, j'en ai fait et j'en ai chié. Clairement, j'en ai chié, mais après, ça fait un peu comme ce que je faisais, donc 125, 2,5 de temps. Déjà, ça fait la caisse et surtout quand tu reprends après le 2,5, bah, c'est tout léger et t'es à bloc partout, quoi. Donc oui, j'en ai fait, quoi.
Ouais, du coup, t'es habitué. Et du coup, on va enchaîner sur la deuxième question. C'est Hello qui demande un enduropale gilet grand. J'imagine que ça doit être avec les grands. C'est
Ouais.
possible dans les 2 ans?
Franchement, j'aime bien le sable, hein, mais les courses de sable, c'est pas quelque chose qui me passionne de fou, on va dire. Je pense pas. Ouais. Je
Et
pense
tu
pas.
penses pas que c'est bien pour une saison Europe de, en fait, de te préparer, tu vois, d'avoir la caisse et tout? Non, c'est pas terrible, tu penses?
C'est sûr que quand j'ai fait ma préparation pour le Touquet, on va dire, j'ai fait des manches de 1 heure ou quoi, c'est sûr que ça m'a servi. Après, forcément, tu te les manges à 1 heure, tu peux très bien les faire, même si tu fais pas le touquet, je veux dire. Donc, peut-être que ça peut te faire la caisse, mais je trouve que c'est, par exemple, juste avant la saison, c'est pas quelque chose qui va te donner beaucoup d'intensité. Ça va plus t'endormir que faire une course de 2 heures et demie, que de faire des sprints, on va dire, quoi.
Je relève une question pour Hoffman, mais tu as déjà un peu répondu tout à l'heure. C'est si tu as le choix entre une carrière SX ou MX, tu t'orienterais vers quoi? Allez, du coup, je vais orienter SX US ou MX US parce que tu nous as dit tout à l'heure que tu voulais vraiment aller aux US. Et ça serait quoi si tu devais choisir entre outdoor et indoor?
En vrai, c'est compliqué parce que outdoor, on va dire, j'ai de l'expérience. Forcément, quand j'arriverai là-bas, je serai pas perdu. Alors que les SX, bah, c'est beaucoup plus d'apprentissage que si j'arrivais et que je connaissais déjà tout, quoi. Donc, mitigé. Franchement, je saurais pas répondre.
Ouais. Et du
Mais
coup,
dans tous les cas, je bosserai les deux. Donc, je pense que ça reviendra au même.
j'en ai pas parlé tout à l'heure avec Greg Aranda, mais c'est vrai que le fait de voir Anthony Bourdon qui fait des bons résultats actuellement, ça vous donne des idées à tous en France?
Bah, c'est sûr qu'on voit Anto réussir. En plus, on parle beaucoup de lui parce que du coup, on en parlait d'être là-bas, il est un peu dans le team et tout. Donc, on parle beaucoup de lui. C'est sûr que je pense que ça a donné envie à plus d'un Français d'aller là-bas et d'aller faire du SX Tour, du SX Tour, du SX US, pardon. Donc, peut-être que ça ouvre des portes, mais c'est sûr que ça doit en faire rêver plus d'un et ça donne envie à plus d'un d'y aller aussi.
Et je crois avoir vu passer aujourd'hui qu'il avait re-signé d'ailleurs, hein, re-signé pour l'année prochaine avec Team Suze.
Ouais, c'est ça, normalement il a re-signé.
C'est ça, donc c'est une bonne chose pour lui. C'est vraiment top. Ça veut dire que, bon, en même temps, il est 6, je crois, du championnat. Donc,
Ouais, il a dû repasser 5 là, il me semble,
il est 5 ou 6
le
du
week-end
championnat.
dernier.
Ouais.
Ouais, non, franchement, c'est top ce qu'il fait.
Donc c'est
Je
pas
crois qu'on
mal.
a tous tes potes en commentaire sur YouTube. Hein, ils ont bien cliqué sur le lien, ils ne se sont pas trompés. On a The Villamouche qui nous demande si elle est bien la nouvelle semi. Et ouais, elle est bien, non, mais ça je pense que ça doit être Mano ou quelque chose comme ça.
Mano qui aime bien
Pierre aussi,
commenter.
du coup, qui te demande si tu aimes bien les voitures, les Renault Zoé. Donc, je sais pas si c'est un rapport avec le prénom, mais en tout cas. Non, ça c'est le mécano à Mano, donc
Du coup,
pareil. D'accord, ouais, donc du coup, on ça
a le
revient au
team
même,
Mano,
ça
quoi.
revient au même.
Ouais, c'est à peu près la même chose.
Tu le côtoies, Mano, du coup, sur les entraînements, je suppose, puisque vous avez le même entraîneur? On est tous les jours ensemble avec Mano, l'entraînement en moto, l'entraînement physique et tout. Donc, j'étais avec lui juste avant, justement, dans la semi, c'est pour ça qu'il parle de ça. Mais je suis tous les jours avec.
Allez, j'ai une autre question, moi, de Rally DT, qui te demande quelle différence entre la GazGaz 250 du Team 737 et avec la KX que tu as cette année de chez Bud?
Bah, j'ai pas roulé avec 250 du team, enfin de 737, donc je pourrais pas
Tu
dire
n'as
la
jamais
différence.
essayé, même en 2 demi, même à l'entraînement non plus? T'as pas.
La seule fois que j'ai fait du 2,5 4 ans au team, c'était quand j'étais champion de France 80. Donc, les
Ouais, donc c'est.
souvenirs, ça date. Hein.
Ouais,
T'avais
donc tu
roulé un
devais
petit peu en
regarder. Deux
demi,
temps, peut-être, non? Tu nous avais pas dit ça? T'avais pas roulé un 2,5 deux temps
mais. Si, j'ai roulé en
à
demi deux
l'identique?
temps, ouais. Mais après, je trouve ça quand même différent.
Ouais, pour comparer une
Ouais.
2,5 deux temps gaz-gaz et une 2,5 KXF,
Ouais.
c'est pas comparable. Donc, du coup, tu peux pas comparer. Donc, au moins,
Non, c'est
Rally
compliqué.
TT, désolé, tu ne peux pas comparer les deux machines. Bon, parfait, bon, on est pas mal là.
Ouais, non, mais je pense qu'on est bien. On arrive à l'heure de live. Merci, merci Mathis. C'était cool pour ton
Pas de
temps. Tu iras
soucis,
voir
merci à vous.
les commentaires là, sur YouTube. Je pense qu'il y a toute l'équipe de Mano qui était sur le clavier. Pour ça, il n'est pas en retard.
Non, il est pas au lit, en tout
J'en doute pas, j'en doute pas. Et en tout cas, vous
Bon, maintenant.
étiez quasiment 300 à nous suivre ce soir en direct. On sait qu'après, ça regarde beaucoup en suivant et aussi en podcast. Mais faites-nous péter le bouton like, allez-y. Ça, c'est bon pour l'algorithme et ça donnera envie aux autres de regarder ce live qui était plutôt intéressant avec Greg Aranda et Mathis Valin. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci Mathis. Merci Blaise. Et à la semaine prochaine, du coup.
Ouais, merci. On te souhaite le meilleur,
Allez,
Mathis. À
ciao,
bientôt.
merci beaucoup.
Allez,
Salut les
ciao
gars.
tout le monde.